Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour, toujours le premier mois de l'année. Et toujours envie de faire des premières. Alors je vais en premier lister tous les titres de mon invitée, parce que chaque fois qu'elle vient, et c'est souvent peut-être, devinez-vous de qui il s'agit si je dis Musée de la Romanité, chaque fois elle est tellement connue que je ne rappelle pas ses titres. Nous accueillons Cécile Carrier. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Docteur en histoire de l'art et archéologie, spécialiste de sculpture et iconographie de l'Antiquité romaine et travaillant au département des collections du Musée de la Romanité. Voilà.
Oui, c'est un sacré...
Ça fait une belle carte de visite.
La carte de visite, c'est un peu trop longue.
Et ça nous donne l'occasion, parce que Cécile connaît tellement, elle connaît déjà toutes les œuvres du Musée de la Romanité, toutes celles qui sont dans les réserves et que nous, on ne voit pas. Et elle ne cesse de progresser dans la connaissance de toutes ces œuvres et elle nous les fait partager. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour en arrière, parce que nous avions commencé, mais autant jadis, à parler de notre sujet d'aujourd'hui, à savoir la sculpture funéraire.
Sculpture funéraire, oui.
Et on avait déjà abordé ce problème, ou ce sujet plutôt, en évoquant des stèles très connues au musée, notamment celle de Liquinia.
Oui, et ouais. Celle de Julia Privata.
Voilà. Donc, nous en avons déjà parlé. Donc aujourd'hui, on ne va pas évidemment reproduire les mêmes choses, mais on va étendre ceci à tout l'art funéraire qu'on peut trouver au Musée de la Romanité.
Voilà, exactement, parce qu'on a quand même beaucoup d'exemples intéressants. Alors, on parle de la Romanité, hein, bien sûr, on circonscrit à cette période-là. Et c'est vrai qu'au musée, nous avons l'avantage d'avoir beaucoup de pièces visibles. Je citerai quand même deux pièces qui sont malheureusement en réserve, mais qui peuvent être intéressantes parce qu'elles ont déjà été exposées lors d'expositions temporaires. Pardon. Donc, je les citerai au cours de l'émission ou de l'émission d'après, parce que je crois qu'on
a de la matière.
On a de la matière pour, je pense, faire deux émissions. Et cette fois-ci, on ne va pas en sauter une. Alors, pour rappel, donc, parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé à ce moment-là, pour rappel, donc, les nécropoles romaines sont à l'extérieur des villes, le long des voies. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'intérêt des Romains, c'est toujours la commémoration de la famille et notamment de leur position sociale. Et sur les monuments funéraires, il y a tout l'apparat décoratif et épigraphique qui permet de mettre en valeur les familles qui ont bien réussi. Et même des gens plus modestes, mais qui, à leur échelle, ont réussi aussi. Et donc, tous ces monuments funéraires qui sont le long des voies interpellent le passant qui arrive d'ailleurs.
Hein. Et c'est le cas, puisqu'il y a toujours une phrase qui dit « Toi, passant, arrête-toi, deux minutes, voilà. »
Exactement. Et du coup, on va parler évidemment de ceux qui ont suffisamment les moyens pour avoir laissé un marqueur tels que voilà, des objets en pierre qu'on va évoquer aujourd'hui. Évidemment, les tombes d'anonymes, ça, je ne peux pas vous les, je peux pas les citer forcément, puisque je n'ai pas le matériel pour en parler. Donc là, évidemment, ceux qui peuvent se faire un monument funéraire en pierre, ce sont déjà des gens qui ont des moyens, on va dire, ou quelqu'un qui a les moyens de le faire pour eux. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Donc, on est là dans la commémoration. Hein, on a déjà parlé de ce fait, de cette mentalité romaine, hein, où on met en valeur les familles, le défunt et la famille du défunt. Alors, pour rappel, vu que nous sommes dans la région pas très loin, le mausolée de Glanum, qui est connu, je pense, quand même d'un peu tout le monde, où l'on voit ce bâtiment sur plusieurs étages, hein, avec au niveau de la rotonde qui est éclairée donc par les colonnes, on sait qu'il y avait les statues des défunts à l'intérieur. Donc on est là dans la commémoration de grandes familles, mais on a des monuments plus modestes, mais on est dans ce type
on
de...
On est typiquement dans la définition du monumental.
Du monumental et de la commémoration de la mémoire. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Voilà, parce qu'un monument, c'est bien pour la mémoire.
Exactement. Voilà. Donc, nous sommes sur cette thématique-là. Quel que soit le type d'objet que je vais présenter, on est toujours dans cette thématique.
Alors, par quoi allons-nous commencer?
Alors, je me suis dit qu'on allait commencer du plus simple au plus compliqué. alors, le plus simple, c'est déjà de vous dire les pierres. Donc, ce qu'on trouve, nous, ici, on a un peu de marbre, beaucoup de calcaire, et on a un peu d'albâtre. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, je reparlerai de ces pierres qui sont utilisées pour ces monuments, cette sculpture funéraire. Alors, le monument qu'on trouve le plus courant, c'est ce qu'on appelle la stèle. Elle se décline sous différentes formes. La forme la plus simple, c'est une forme rectangulaire, hein, dans le sens de la hauteur, qu'on fiche dans le sol. Ce qui fait que la partie inférieure, elle est juste équarrie, hein, elle n'est pas finie et léchée, parce qu'elle n'est évidemment
elle
pas visible.
Elle n'est pas destinée à être
vue. Voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on les expose dans les musées, forcément, cette partie qui était autrefois pas visible est aujourd'hui visible. Donc, ça peut paraître bizarre parce que ça fait un peu caillou. Juste taillé au carré.
On dirait que c'est inachevé, mais
voilà,
c'est pas
mais
du
en
tout
fait,
ça.
C'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est très reconnaissable, cette forme de stèle en forme de plaque. On en a plusieurs, hein, qui sont exposés au musée, donc je ne pouvais pas toutes les citer. J'en ai pris deux qui pourraient être un peu la définition des deux formes existantes. La première, c'est celle du gladiateur Columbus, qui est à sommet triangulaire, donc c'est-à-dire que le sommet est vraiment en forme de triangle.
Je trouve qu'elle est très harmonieuse, celle-ci. Hein,
oui, elle est très belle. Oui, oui. Puis, elle est assez simple, hein, y a pas de fioritures, il n'y a pas de décor. Et il y a l'inscription. Qui nous raconte que donc Columbus était un myrmillon, donc un gladiateur, et qu'il est mort à 25 ans, évidemment, hein, quand on combat dans l'arène, et que c'est Sperata, son épouse, qui a donc payé pour et a fait faire la stèle. Donc ça, c'était intéressant, ça permet d'avoir, grâce à l'inscription, un petit peu de toucher la réalité et la vie de ce personnage. Donc on est là dans quelqu'un qui a certains moyens, on va dire, pas excessifs, hein, la stèle est très simple, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de décor, hein, c'est vraiment juste la pierre équarrie et l'inscription, mais quand même on a une belle inscription.
Et où fut-elle trouvée alors?
Alors, elle a été trouvée dans les déblais de l'amphithéâtre, donc ça veut dire en remploi.
C'est logique. Hein,
c'est logique, voilà. Mais c'est quand même un bel objet de plus d'un mètre quand même.
Donc, et la gravure est belle, hein?
Ah, oui, oui, elle est bien lisible, hein, oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est donc la stèle, ce qu'on appelle à sommet triangulaire, qui se différencie de l'autre forme, qui est à sommet cintré, donc en arc de cercle. Et j'ai pris comme exemple celle de Quintus Vettius Gracilis, qui est également un gladiateur.
Alors lui, il a droit au tria nomina.
Oui, alors lui, il a non seulement les tria nomina, mais en plus une stèle qui est un peu plus sophistiquée, avec l'inscription qui est encadrée par des moulures. Oui. Donc on est dans la gamme un peu au-dessus, on va dire, avec une inscription encore plus léchée que celle de Columbus. Donc on voit qu'il y a, au fur et à mesure, on va voir qu'au fur et à mesure, on monte
en gamme, dans
ces monuments funéraires sculptés. Donc notre Vettius Gracilis a été couronné trois fois, c'est-à-dire a été vainqueur trois fois. Donc, ce qui explique peut-être qu'il avait peut-être mieux gagné sa vie. Mais il est mort lui aussi à 25 ans. Bon, ça ne lui a pas malheureusement porté bonheur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est écrit que c'est son instructeur qui a fait faire le tombeau. Et ça, c'est intéressant parce que ces deux exemples montrent deux commanditaires pour les stèles. Il en existe d'autres. Hein. Il peut y avoir aussi un affranchi, un esclave.
Oui, on a beaucoup d'histoires. Les pierres nous racontent beaucoup de belles histoires.
Voilà.
Oui, oui.
On peut avoir des concubines, on peut avoir un compagnon. Enfin bon, c'est intéressant parce qu'elles nous racontent beaucoup de choses sur la vie des gens, mine de rien, en 3-4 lignes.
Oui.
Donc, c'est assez intéressant de s'arrêter sur ces objets, même s'ils sont assez simples.
Alors ça, c'est donc des stèles qu'on va trouver facilement au musée de la Romanité.
Oui, oui, oui. Voilà. Alors, elles sont toutes les deux, si je ne me trompe pas, dans le secteur où il y a toutes les inscriptions, juste avant la vie quotidienne, au premier étage. On va passer à quelque chose de plus lourd et cossu. C'est la stèle... Non, c'est la stèle quadrangulaire,
ah oui,
cette
d'accord.
fois. C'est-à-dire, au lieu d'être une plaque un peu fine, qui fait à peu près 15 cm d'épaisseur, là, on a carrément le gros bloc, bien costaud.
Et là, il y a l'image et le texte.
Et il y a, la plupart du temps, l'image et le texte. C'est ce qu'on appelle les stèles à portrait, puisqu'il y a les portraits des défunts. Alors,
Et bon. On a beau celle-ci l'avoir vue et revue.
J'ai quand même remis Sextus Agenus Macrinus et Licinia Flavilla. Bon, tout le monde les connaît, mais c'est quand même, voilà, c'est un... au moins les gens, ils savent tout de suite de quoi on parle. Quand je vais parler d'une stèle à portrait, ils voient tout de suite de quoi je parle. Ces stèles qui sont des gros blocs, hein, qui sont souvent très lourds, hein, qui font autour de 500 kilos pour la plupart. Certaines peuvent aller presque jusqu'à une tonne, hein, donc on en reparlera. Ces stèles à portrait permettent d'avoir à la fois l'image, c'est-à-dire le portrait du défunt, et aussi d'avoir, entre guillemets, son CV avec l'inscription. Donc ça, c'est assez intéressant. Et dans le cas de nos deux amis, ça nous permet de savoir qu'ils étaient très élevés dans la société, puisque elle était flaminique, c'est-à-dire prêtresse du culte impérial, et lui était pontife. Il a été dans la Légion également, il a été officier. Donc on est sur des gens qui sont très
des
hauts, des notables locaux, ni moins.
Et alors là, un monument très lourd. Hein,
ah ben oui, là, c'est des choses qui peuvent aller jusqu'à 500-600 kilos hein, facilement. C'est de la pierre pleine, hein, donc là, c'est carrément un bloc de pierre.
Et là, il a été trouvé à quel endroit, celui-ci?
Alors lui aussi, pas loin de l'amphithéâtre, également en remploi. Ouais. Ça, toute la zone là, a été beaucoup bougée, en fait. L'amphithéâtre a servi de carrière et tout ce qui était à l'extérieur de l'enceinte aussi. Les monuments funéraires, c'était idéal, hein. Ça faisait des blocs tout près. Hein. Donc,
bah oui, tout
cela,
est carré.
Hein, tout est carré, poli, hein, ouais. Voilà. C'est ce qui explique aussi souvent qu'ils sont abîmés. On a de la chance que celui-ci soit en très bon état.
Mais il faut penser que quelqu'un l'a trouvé beau tout du long. Quoi.
C'est ça. Donc celui-ci, pour ceux qui ne connaissent pas, il est dans l'espace funéraire romain, donc au premier étage également.
Alors ensuite, vous proposez le sarcophage de Valbonne.
On a le sarcophage, voilà. Donc le sarcophage, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Hein. C'est une cuve avec un couvercle. Et donc là, ce sarcophage, il est destiné à accueillir le corps en inhumation et non pas en incinération. C'est là où on passe à quelque chose de différent. Et donc le sarcophage, quand il est... on a les moyens, peut être entièrement sculpté ou en partie sculpté. En général, la face arrière ne l'est pas ou de manière beaucoup plus succincte. Même le couvercle peut être sculpté. Donc, le sarcophage de Valbonne, qui est un des rares sarcophages que nous avons entier, c'est même le seul qu'on ait entier vraiment dans le musée et qui soit exposé. Il est intéressant du coup pour nous de le présenter. Et donc, comme il est daté entre la seconde moitié du 5e siècle et le 6e siècle, il est dans la partie, ce qu'on appelle transition 2, c'est-à-dire la partie paléochrétienne juste avant le roman.
Oui.
Donc au niveau de la mezzanine intermédiaire. Il est intéressant puisqu'il a été trouvé à la Chartreuse de Valbonne, près de Pont-Saint-Esprit, donc c'est vraiment local. Et il est en marbre, hein, c'est quand même une belle pièce en marbre, de 2 mètres de long quand même, c'est une très très belle pièce.
Et très ouragée. Hein,
voilà, ouais. La sculpture est magnifique, on a un Christ au centre, avec un décor floral et puis d'autres personnages, et même le couvercle est entièrement sculpté. Donc, c'est une très belle pièce.
Oui, je trouve le couvercle, il est à la fois très épuré et
oui, mais
est
bien travaillé. Oui. On a d'autres exemples où on peut avoir les bustes des défunts dessus, sur le sarcophage, ou avoir carrément, on le verra plus loin, des sculptures plus importantes. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a une autre forme aussi de sculpture funéraire dont on n'a pas d'exemple au Musée de la Romanité, mais je le cite pour être exhaustive, on va dire. C'est ce qu'on appelle le cip.
Ah oui.
Alors le cip, c'est en fait, ça fait, on l'intègre dans les stèles aussi, mais ça a une forme complètement différente. En fait, c'est soit une forme de colonne, soit une forme de pilier, pas très haut en général, c'est à peu près la hauteur humaine, on va dire. Certains peuvent avoir le buste, enfin peuvent être surmontés du buste du défunt. Et certains peuvent aussi servir uniquement de borne. De l'enclos funéraire. Et dans ces cas-là, on trouve des mots du style infronté ou inagrum qui montrent, avec un chiffre derrière, la limitation de l'enclos funéraire se restreint.
Oui.
Donc, mais ça, on n'en a pas au musée, ni sous une forme, ni sous une autre. Les seuls piliers qu'on a qui ont une inscription sont en fait honorifiques. Mais ne sont pas funéraires. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Et en plus, il n'y en a aucun d'exposé. Mais voilà, on trouve ce qu'on appelle ce cip. Voilà.
Alors, on va marquer une toute petite pause musicale avec l'âne d'or. Et on se retrouve pour continuer à parler sarcophage. Parce que là, je vois une jolie tête qui me regarde. Et j'ai envie de lui répondre. À tout de suite.
À tout de suite.
Alors, Radio Alliance Plus et c'est Antiquissimo, Cécile Carrier, nous déroule tout ce qui existe en matière de sculpture funéraire au Musée de la Romanité. Et nous étions en train de parler de sarcophages et elle avait envie de nous montrer un couvercle bien particulier, bien gracieux.
Alors, c'est une partie, malheureusement, du couvercle, mais j'aurais bien aimé avoir la suite d'ailleurs, parce que c'est un bel objet. Alors, cet objet se trouve toujours au premier étage du côté romain, mais du côté architecture, dans la vitrine où on a exposé tous les objets qui présentent en décoration des masques de théâtre.
Ah oui.
Voilà. Parce que c'est. En fait, il s'agit d'un angle de couvercle de sarcophage.
Mais quelle dimension fait-il ? Je ne me rends pas compte.
C'est assez grand. Il fait 20 cm en hauteur. Donc, il est assez, assez grand et assez profond, puisque ça, c'est un coin, en fait.
Hein, oui.
En forme de visage de masque de théâtre.
Et c'est une prouesse, techniquement
oui,
parlant.
Oui. On en trouve quand même. C'est assez courant. Hein, assez courant dans les sarcophages, je veux dire. C'est une belle pièce en marbre. Hein. C'est d'ailleurs, à un moment donné, certains ont pensé que c'était un faux parce qu'il est tellement en bon état. Mais en fait, non, ça existe. Hein. C'est pas, ce n'est pas quelque chose de bizarre ou d'incongru. Et donc,
est-ce que ça devait s'abîmer terriblement, ces pièces-là?
Ah ben, ça
en
se casse.
Angle.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a qu'un morceau d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est l'angle cornier en fait,
voilà.
Hein, du sarcophage. Donc c'est très en très haut. C'est pratiquement de la ronde bosse, pratiquement, hein, puisque c'est vraiment détaché. Du bloc qui sert à faire le couvercle.
Donc, et est-ce qu'on sait à quel sarcophage c'était rattaché?
Non, malheureusement, j'ai retrouvé ça dans les réserves quand on a fait le gros inventaire récollement il y a quelques années. Et malheureusement, il est tout seul. Donc, j'ai même pas de provenance. Si, il a été retrouvé rue Pierre-Sémard. Donc,
C'est un visage d'une expressivité grâce incroyable.
Oui,
hein.
Il est très très bien conservé. C'est vrai qu'il est magnifique.
Il y a un mouvement dans les cheveux aussi.
Oui, ça fait vraiment partie des masques de la Nouvelle Comédie, ce qu'on appelle. Vraiment typiquement d'époque romaine.
Mais formidable. Et à côté, je vois que vous me proposez, pas très loin d'ici, d'aller à Saint-Géniès voir l'urne.
Oui, à Saint-Géniès de Malguarès. A été trouvée, alors dans une tombe, hein, une urne cinéraire en pierre, mais il en existe aussi en marbre, pardon, mais il en existe aussi en albâtre.
Et c'est du marbre rose,
c'est plutôt ma photo qui est un peu avec la lumière artificielle un peu rosée, mais non, elle est bien blanche au contraire. C'est du beau marbre blanc. On en a trouvé une autre. Alors je me souviens plus de la tombe, mais qui est en albâtre aussi, mais elle est pas présentée. Alors que celle dont je vous parle de Saint-Géniès, elle est bien présentée, elle du côté funéraire.
Et là, elle est complète.
Elle est complète, il y a le couvercle, il y a tout. Oui. Sauf qu'on n'a pas trouvé ce qu'il y avait dedans, bien sûr. Donc là, c'est vraiment typiquement un réceptacle pour les cendres. Et l'urne, ensuite, était souvent, alors, soit enterrée dans la fosse, soit quand elle faisait partie d'un tombeau, mis à l'intérieur du tombeau, puisque c'est un objet qui est extrêmement décoratif. Alors, pour décrire un peu pour nos auditeurs, en fait, il y a un décor de gaudron, en fait, et de strigil. Donc, un double décor, un double registre.
Avec un mouvement inversé.
Voilà, exactement, c'est très harmonieux. Les anses sont tout en arrondi, et le couvercle se termine avec un bouchon rond. Donc, je dirais qu'elle a presque des formes féminines, on dirait.
Oui, c'est ça.
Voilà,
extrêmement féminin.
Très, très, très gracieux. Et donc, ces urnes en pierre sont souvent très ouvragées. Voilà, par rapport à des urnes en plomb, par exemple, qui sont vraiment brutes de décoffrage. Après, évidemment, c'est beaucoup plus onéreux que de faire une urne en verre, hein, forcément. Hein, c'est pas du tout le même.
Et ce marbre, on le trouvait où ? C'est du marbre importé.
C'est du marbre d'importation, bien sûr. Oui, des grandes carrières, soit
d'Italie,
romaines,
ouais.
D'Italie, voilà, soit de Grèce aussi, pour ceux qui avaient les moyens aussi. Parce que là, il faut avoir les autorisations de pouvoir faire importer du marbre. Donc, voilà, c'est.
Et on n'a rien trouvé de ce même marbre ailleurs, quoi. C'est une
Il n'a pas été analysé, donc je ne sais pas de quelle veine il s'agit. Je ne peux pas vous répondre.
D'accord. Alors
mais en tout cas, trouver dans une tombe à Saint-Géniès, ça montre qu'il y avait des gens qui avaient des moyens. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que.
Et justement, à Saint-Géniès, est-ce qu'il y a beaucoup de trouvailles de ce genre? Parce que je...
Non. C'est assez étonnant d'avoir une belle pièce en marbre comme ça. Mais en fait, on a des découvertes sporadiques. sur tout ce qu'on appelle le territoire de la Nîmes antique. On a quand même quelques belles pièces. D'ailleurs, les prochaines dont on va parler sont aussi des découvertes dans des villes, dans ce qui étaient des petites cités rattachées à Nîmes à l'époque, où je pense il y avait quand même des gens qui étaient des notables et qui pouvaient se payer.
Il y avait des villas suburbaines chose comme
et qui avaient qui avaient des domaines probablement et qui étaient suffisamment pour se payer des choses en marbre. Donc c'est quand même intéressant de connaître ces objets-là.
Et alors, dans des communes comme ça, il n'y a pas de musée, tout est rapporté sur Nîmes.
Alors, à l'époque, tout était rapporté sur Nîmes, effectivement. Oui. Et puis, certains des objets arrivent aussi par les collectionneurs. Donc, évidemment, ça arrive là où les collectionneurs de lèguent ou vendent. C'est pas comme maintenant où, quand les archéologues fouillent, il y a tout un circuit qui se met en place. Et quand ils fouillent sur des terrains privés, c'est un accord qui se fait avec le propriétaire pour essayer de récupérer au moins certaines pièces pour le musée. Mais c'est vrai qu'autrefois, ça fonctionnait pas comme ça. On n'est pas sur la même. Donc, du coup, c'est comme ça qu'au musée, on a quand même beaucoup d'objets qui proviennent des villes alentours.
Mais alors, on a trouvé dans ces petits villages des objets, mais pas de bâtis.
Alors, si, il y a des endroits où on a retrouvé beaucoup de bâtiments liés à tout ce qui est prospection de la terre, etc., de l'artisanat, notamment de la céramique, pour construire et pour fabriquer tous les ustensiles nécessaires. Donc, on peut avoir des petites forges, on peut avoir tout ce qui est nécessaire pour être en autonomie sur quand même un terrain qui est assez éloigné de la grosse ville. Donc, il faut avoir sur place, on le voit bien avec la... je me souviens plus comment ça s'appelle, là où ils font le vin, pas très loin de Beaucaire. Au Mas des Tourelles, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses sur place. Ils ont les ateliers d'artisans sur place.
Oui, bien sûr. Et plus ça va, plus on trouve de choses.
Bien sûr, oui. Moi, j'ai plein de statuaire qui vient, même de la grosse statuaire. Par exemple, on avait parlé, il me semble, une fois du Priape d'Arpaillargues, par exemple, qui est déjà une grosse statue, par exemple, qui est typique de ce que l'on peut trouver. Ce sont des divinités qui sont reliées à un site archéologique qui n'est pas forcément fouillé avec. Parce que, soit il n'y a pas eu l'occasion, mais on sait que c'est forcément rattaché à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être une villa, une ferme, enfin, une grosse ferme agricole de la région, quoi.
Et à propos de, ça ne nous ramène pas forcément à notre sujet funéraire, mais à propos de fouilles, ce qui se construit actuellement, là, le Palais des Congrès, avec cette énorme fosse, est-ce qu'on a trouvé des choses?
Alors, je crois qu'ils ont trouvé surtout du médiéval, si j'ai bien tout suivi. Donc, je pense qu'on aura certainement des échos...
Quand ce sera analysé.
Ce sera analysé, je pense, oui. Mais on parlait nous disait qu'il n'y avait pas forcément un lien avec le funéraire, mais si, parce qu'en fait, dans ces grandes fermes, dans ces grandes villas, on pouvait avoir la nécropole, c'est-à-dire la tombe des maîtres. Donc en fait, on peut retrouver du funéraire même là.
Alors, on continue notre parcours en quittant les objets pour aller rencontrer les êtres humains.
Et oui, on va passer au portrait du défunt. Forcément, avec moi, forcément, on finit par parler de portrait. Donc, l'idée d'avoir le portrait du défunt au niveau dans le milieu funéraire, cela vient vraiment de la Rome archaïque. Quand, lors des cérémonies funéraires, on prélevait les visages avec de l'argile pour avoir le masque funéraire de la personne et le conserver pieusement dans la maison. Donc ça vient de là. Ces effigies, en fait, certaines étaient donc prélevées, mais d'autres pouvaient être peintes aussi, hein, d'ailleurs. Ces effigies, ensuite, on les ressortait lors des autres cérémonies funéraires pour présenter la lignée familiale. Donc ça permettait de mettre en avant les grandes familles à l'époque de la Rome archaïque. Et cette idée-là est en lien probablement avec ce que faisaient les Étrusques. Alors, est-ce que ça vient directement des Étrusques Ou est-ce que les deux peuples faisaient la même chose, oui. Je ne sais pas, là, je ne connais pas suffisamment, je ne m'avancerai pas. Mais je sais que les Étrusques avaient aussi cette manière de faire.
Alors, et donc, on va laisser cette femme en prêtresse de Cérès dormir une semaine.
Ah, bah alors, oui.
Et nous continuerons la semaine prochaine.
Ça sera un lien, entre les deux.
Ah, c'est la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.